Oui, je sais que ça ferait du bien de sortir de soi, d'être quelqu'un d'autre, là où c'est plus sucré, mais c'est pas possible. Tu es qui tu es.
Pascal Paradou.
Une phrase un peu énigmatique est cette affirmation « Tu es qui tu es » en ouverture du roman de Jean-Christophe Folly, Benoît Blouz, premier roman d'un comédien qui parcourt les plateaux de cinéma et les scènes de théâtre depuis une quinzaine d'années et qui est actuellement à l'affiche du Théâtre du Rond-Point dans une pièce exceptionnelle, Dolorosa. Bonjour Jean-Christophe Folly.
Bonjour Pascal.
Être comédien, être écrivain, c'est être quelque chose d'autres ou découvrir profondément qui l'on est vraiment. C'est la minute psychologique de l'émission.
Oui, je pense que ça aide à découvrir qui on est, quoi. Mais je pense que c'est quelque chose qui se fait plutôt que qui se dit. Enfin, on s'en rend compte beaucoup plus tard, quoi. Ouais.
Mais être comédien ou être écrivain, les deux, mon colonel.
Ah oui, je pense, c'est un dialogue entre les deux, quoi. Le fait de passer de l'écriture au plateau, voilà. Enfin, en tout cas, ça me permet de découvrir qui je suis, c'est sûr. Ouais.
Dans votre roman, alors il n'est pas du tout question de théâtre, mais je trouve quand même que c'est un roman de comédien. C'est-à-dire que la parole est omniprésente, ça cause beaucoup, le narrateur parle, même si on s'y attend, je veux dire, on est toujours surpris. Ça, par exemple, c'est une des premières phrases du roman.
Ouais, c'est vrai. Après, je m'en suis pas rendu compte, parce que vu que, que j'écrivais, c'était dans la tête, quoi. Et puis, mais c'est vrai qu'on me dit, c'est pas la première fois qu'on me dit que c'est assez, pas théâtral, enfin en tout cas il y a de la parole, enfin voilà, c'est dans la parole, donc oui ça fait plaisir, quoi. Ouais.
Mais c'est important l'oralité?
Écoutez, oui je pense, mais alors c'est à mon insu, hein. C'est le fait d'être comédien peut-être qui fait que l'oralité est présente, mais je me suis pas dit en écrivant ce roman que je voulais qu'il y ait vraiment l'oralité, quoi. C'est venu comme ça, malgré moi.
Mais vous l'avez joué, votre roman? Vous l'avez articulé, gueulé, comme a pu le faire Flaubert, dit-on?
Non, oui, c'est René Saint-Éloi, l'éditeur des Mémoires d'Encrier, qui me disait que ça pouvait m'aider de gueuler le texte pour pouvoir le ressentir, l'éprouver et tout ça, mais je n'y suis pas arrivé. Ça me faisait un peu bizarre de le dire à voix haute. Donc non, c'était vraiment, c'était plus corporel, enfin c'est plus dans mon corps que charnel, on va dire, que gueuler.
Parce que vous aviez déjà écrit, cette fois, pour le théâtre, notamment Salade, tomate, oignon et puis Sensuel, mais ça, c'était des textes pour vous, donc forcément, ça passait par l'oralité. Donc ça, c'est l'inconscient qui écrit avec vous dans ce Benoît Blouz.
Je suis assez d'accord avec ça, ouais.
Être comédien ou écrivain, Jean-Christophe Folly, est-ce que c'est prendre la parole? Est-ce qu'il y a une responsabilité, selon vous, que de dire un certain nombre de choses? Et on va voir ce que raconte le roman, parce qu'il dit, avec des airs parfois un peu légers et joyeux, des choses assez fondamentales et assez graves.
Il y a une responsabilité, oui. Enfin, je pense. Ça dépend pour qui, on va dire. Mais oui, si vous me posez la question à moi, oui, je pense qu'il y a une responsabilité à avoir, qu'on dit des choses importantes, et oui, c'est important d'en avoir conscience, je pense.
Pourquoi avoir eu envie d'écrire ce roman, Benoît Blouz, qui, on peut le préciser, raconte une histoire d'amitié entre deux hommes qui se connaissent depuis l'enfance, mais finalement le temps et la vie vont creuser un fossé entre eux.
J'avais envie de parler d'un changement d'époque, mais comme on peut tous le ressentir, j'ai l'impression de se dire que c'était mieux avant, et puis de voir que le monde a changé. Et puis je trouvais que justement le moment des attentats de 2015, avec je me suis rendu compte aussi en écrivant Benoît Blouze et en écrivant Salade Tomate Oignon aussi, d'ailleurs c'est étrange, mais qui a eu comme un virage qui a été pris en France, et puis je sais pas, peut-être ailleurs, ou en tout cas à Paris, et dont on parle pas assez. On est plus focus sur les attentats et pas forcément sur l'impact que ça a eu sur nous, et comme ça nous a divisé et tout ça, donc... Voilà, je le dis aujourd'hui, mais je ne me rendais pas compte quand j'écrivais le roman, mais c'est quelque chose qui commence à ressortir.
C'est l'histoire d'un homme ou de deux hommes, ce roman Benoît Blouze ? Parce que c'est Benoît, quand même, qui meurt dès la première page, puisqu'il se suicide, il se jette sous les roues d'un RER. C'est quand même un personnage qui apparaît au fur et à mesure, au fil de son journal, de ses écrits. Et on sent qu'il a du mal à sortir de soi, qu'il a du mal à s'aimer, qu'il a du mal à être lui-même, justement.
Oui, oui. Bah oui, il y a beaucoup de challenges à relever pour ce personnage, pour Benoît. Mais donc voilà, il y a forcément un échec vu qu'il meurt à la première page, effectivement. Mais je dirais que c'est l'histoire de. Oui, il y a au moins.
C'est l'histoire des deux.
Trois. Mais bon, on va pas spoiler quoi. Mais oui, il y a en tout cas de deux personnages un peu en miroir. En miroir l'un de l'autre, qui étaient vraiment très proches à une époque et qui le sont encore malgré eux. Et je pense qu'il y a besoin de l'un pour mettre en relief l'autre et vice-versa. Ouais.
C'est un roman intime, mais on est quand même plongé dans le Paris des années 80-90, 2010 aussi. Ouais. Il y a la musique, les bars, la fête... Un truc que vous connaissez bien.
Ouais, bah oui, j'ai pas mal traîné mes guêtres à Paris, c'est sûr, dans les bars et tout ça, et oui, oui.
Et ouais. Plutôt le nord de Paris, Belleville, Oberkampf et compagnie. Là, oui. Là où on a fait la fête dans ces années-là, quoi.
Voilà, exactement, ouais.
Alors de la musique, on va en parler, car vous donnez d'ailleurs la playlist de votre roman à la fin du livre, mais Babix ne peut pas y être encore, car son nouvel album Amour Colosse sort en avril, et pour l'instant un seul titre est disponible, il s'appelle Les Héros.
Les héros tombent de haut, ravissent les ravines, charment les pans. Les panthéons, les héros tombent de haut, dévalent les cathédrales, traversent les vitraux de la vie, traversent les jupons de l'oubli, et si s'effacent les effigies. Et si s'entassent les élégies, si gis, au marché noir, les médailles se monnaient pour une rosette, pour une breloque sur canapé, pour un grand soir, pour une minute sur canopé. Les héros tombent de haut, chutent des crêtes, glissent des nues, décrètent des drapeaux. Les héros tombent de haut, traversent les déserts, arpentent les éclipses, se cognent au Colisée. Jalouse les alizés. Et si s'effacent les effigies. Et si s'entassent les élégies. Si gis. Au marché noir, les médailles se monnaient. Pour une rosette, pour une breloque sur canapé. Pour un grand soir, pour une minute sur canopé.
« Babix sur RFI et bientôt peut-être à ce micro. Jean-Christophe, folie parmi tous vos talents, il y a le théâtre et la littérature, mais il y a aussi la musique, parce que vous êtes guitariste sur scène dans Dolorosa actuellement au théâtre du Rond-Point. Vous jouez de la guitare?
Je joue de la guitare, vraiment. Mais alors sur Dolorosa, c'est de la basse. Et donc je commence à apprendre à jouer de la basse.
Ouais, donc vous n'êtes pas un musicien dans l'âme, si?
Oui, bah je guitare chant beaucoup, basse, un peu trombone, de flûte. J'aime bien toucher à tout, mais pas très bien. Mais je touche à tout, ouais.
Alors revenons sur votre roman Benoît Blues. C'est l'histoire d'une amitié, mais c'est surtout le parcours assez terrible de cet homme qu'on évoquait et qui donne le titre à ce roman, Benoît, qui n'aime personne, n'arrive pas à se faire aimer, n'arrive pas à s'aimer lui-même et qui est sa couleur de peau. Comment expliquer cela ?
Waouh, il faudrait quelques heures pour entrer en profondeur. Alors après, il est sa peau à un moment donné dans sa vie, mais je pense pas que ce soit le cas. Enfin voilà, quand on voit globalement le roman, quoi. Mais il y a forcément des questions. Le fait d'être né ici en France et puis d'avoir des origines, d'essayer de se chercher par rapport au regard de l'autre. Enfin, au bout d'un moment, ça donne un peu un tourbillon qui fait que on sait plus. Donc, on essaie de se recroqueviller dans la colère ou dans l'amour ou dans la haine. On est un peu perdu. Et puis, je voulais essayer de montrer ça, d'en parler, parce que je pense que ça touche beaucoup de gens, mais c'est pas que de la haine, c'est de la haine à un moment dans une page, mais après ça passe complètement à autre chose.
Mais il a quand même du mal à accepter qui il est, et sa peau, parce qu'il est noir, en fait partie.
Oui, c'est sûr, ouais, ça fait partie, oui, mais bon, il a choisi justement de pas se cacher derrière et d'essayer d'être autre chose, d'être à la fois cela. Enfin voilà, il va faire des voyages aussi qui vont dans le roman, qui vont voilà l'ouvrir un peu à qui il est. Mais c'est sûr qu'il a du mal. Mais je pense que c'est aussi le monde autour de lui qui le blesse.
Parce qu'il part en Afrique à un moment, il raconte cela, mais ça se passe pas si bien que ça, parce que là-bas aussi, il se sent peut-être pas de la bonne couleur,
ouais.
Même s'il est de la même couleur.
Ouais. Non, du coup, ouais, je pense que c'est plus une position de face à la couleur, face à l'Afrique, comment on se positionne. Et je pense que c'est ça qui le perd et qui l'interroge, quoi.
Alors la question me brûle un peu les lèvres quand même, Jean-Christophe Folly. Ce roman est une fiction, c'est clair. Mais est-ce qu'il s'ancre dans votre expérience ?
Le roman.
Le roman, ce personnage.
Ce personnage. J'ai envie de dire que je suis soit tous les personnages du roman, soit aucun. Quoi. J'ai mis de moi dans tous, mais il y a autant de moi dans le narrateur que dans Benoît, que dans tous les autres personnages. Donc j'ai brouillé les pistes, mais je voulais surtout apporter mon soutien à toutes ces personnes qui sont perdues et qui essayent de se retrouver, voilà, par rapport à cette histoire de couleur de peau, justement, et d'origine et de genre et tout, quoi.
Mais vous êtes d'origine togolaise, donc de peau noire. Est-ce que vous avez été effleuré par ce sentiment ? Est-ce que vous avez senti la société, les regards, du racisme ? Enfin, vous voyez, tout ce qu'on peut imaginer, projeter sur une peau.
Ah bah oui, bah évidemment, ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, on peut pas faire autrement que de répondre oui à cette question. Mais c'est pour vous et pour tout le monde pareil. Je pense qu'à partir du moment où on est noir dans un pays blanc, forcément on subit du racisme. Mais c'est que le début, c'est le début. Après, pour entrer, quand on rentre vraiment en profondeur, vraiment dans la chair du truc, c'est là que ça devient intéressant de fouiller, parce que le monde n'est pas binaire, c'est pas manichéen, c'est pas voilà ce qu'on dit tout noir ou tout blanc. C'est de creuser, d'aller chercher quelque chose de multiple et qui soit beaucoup plus complexe que justement ce noir ou blanc. Ouais.
J'aimerais, Jean-Christophe Folly, que vous nous lisiez un court extrait de votre roman Benoît Blues. C'est ce moment justement où Geoffroy, qui a hérité du journal intime de Benoît, va commencer à le lire et va découvrir ce sentiment.
Avec Benoît, on aimait bien s'envoyer des cartes postales bien sales. C'était un défi qu'on s'était fixé à 20 piges. C'est vrai que l'été, on en voit pas mal en province, des cartes postales avec, par exemple, 5 culs de filles en string bronzé à la plage avec écrit en bas « Tu tires ou tu pointes ?» Ce genre de choses. Celle que j'ai trouvée dans le sac valait son pesant d'or. Une dizaine de femmes nues dans un filet, avec une histoire de pêche à la morue. Pas mal. J'ai commencé à lire la carte de « Petite merde ». C'est douloureux de voir l'écriture de quelqu'un dont on a été proche et qui est maintenant mort. C'est bizarre aussi. C'est l'histoire d'une réussite et d'un échec, poteau. Par quoi on commence? L'échec? La réussite? Par cette dernière. Oui, les dames d'abord. La réussite, je crois, sans me vanter, pouvoir affirmer que j'ai remporté haut la main notre concours de la carte postale la plus pourrie. Juge par toi-même et incline-toi, manant. Voilà, voilà. L'échec? J'ai échoué à vivre sereinement ce que j'étais venu sur Terre pour être. Je n'ai pas réussi à être simplement. Je n'ai pas réussi à être un noir. Je suis noir, poteau, et ça m'a bouffé. Ça m'a hanté. Et je me suis cassé les dents dessus, sur cette putain de peau. Je hais. Je ne sais même pas qui haïr. J'ai haï les noirs, j'ai haï les blancs. J'ai haï l'histoire. Je ne sais plus qui haïr. J'ai perdu. Je ne sais pas qui a gagné, mais j'ai perdu. Bonne lecture, petit bâtard. Et fais de moi un Kafka des orthos. Big bisou bien baveux, Ben.
Petit bâtard, ça fait partie des petits mots hein, que les deux personnages s'adressent. Petite merde, petit bâtard.
Ouais, ouais,
Y a rien de méchant là-dedans. En revanche, le mot haine, j'y reviens, est quand même particulièrement fort. Et d'ailleurs, vous dites que la haine parcourt toutes les vies depuis la tuerie du Bataclan en 2015.
La haine grandit, on s'en rend pas compte. Et on verra ça peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, et on se dira « Ah oui, c'est ça qu'on a vécu ». Et je trouve ça dommage de ne pas réellement se poser la question, de ne pas se poser, et puis de se dire « Voilà, on est tous dans le même bateau, mais acceptons de nous regarder dans la glace, acceptons ça ».
Parce que vous rappelez qu'au Bataclan, des hommes et des femmes de toute couleur, de toute peau, de toute religion sont morts, de pas tous âges, parce que bon, c'était quand même du métal, mais quand même, il y avait des jeunes gens de 20 ans et d'autres un peu plus âgés, de 40. Et malgré tout, la haine est là. Comment l'extirper? Alors, je vous demandais s'il y avait une responsabilité de l'auteur ou de l'acteur. Est-ce que ça participe de ça, d'essayer d'alerter sur ces niveaux de haine qui ne cessent de monter, ces amalgames et ces confusions qui sont faites?
Oui, après, mon but, c'est de rendre compte, d'être un peu témoin, de dire, voilà, ça se passe comme ça, regardez. Mais je suis un peu perdu par rapport à la... Non, la responsabilité, la responsabilité de l'artiste, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Je j'ai pas la réponse, ouais.
Et vous écrivez pas pour divertir seulement?
Non, vraiment pas. Je sais pas. Est-ce que vous pourriez reformuler la question? Parce que j'avoue qu'elle va chercher des choses très loin en moi, donc peut-être vous pourriez la reformuler.
Comment faire face, pour faire simple, à ces mouvements de haine? Est-ce que vous sentez avoir une responsabilité pour dire quelque chose sur cette montée de la haine que l'on voit dans votre roman, mais que l'on voit aussi sur les réseaux sociaux, que l'on voit au quotidien dans les altercations, dans la politique, dans la vie?
Ouais, c'est vrai que c'est dur. Moi, ça me subjugue et en même temps, j'ai l'impression qu'on ne peut pas faire autrement que d'affronter ça. Mais peut-être juste se regarder et puis se rendre compte qu'il faut accepter qu'on est un peu tous dans le même bateau et arrêter de se diviser. Mais voilà, je ne sais pas si c'est possible.
Dans votre roman, et vous venez d'en lire l'extrait, Benoît Sehé, et puis quelques pages plus loin, quelques jours plus tard, Geoffroy, donc le narrateur, va faire une expérience qui est pour lui absolument traumatisante. Et exceptionnellement, j'aimerais que vous lisiez un deuxième extrait de Benoît Blues, Jean-Christophe Folli.
Il y a 40 minutes à peine, je sortais du Daily Monop. C'était la pause déj. J'avais pris la César au quinoa, une petite sampé et une granny, 8,24 €. Je me souviens du prix. Je me souviens même du prix. Je sortais du Daily Monop, j'étais en train d'écrire un texto à Ditoun. Ton père est un voleur. Et si ce qui s'est passé ne s'était pas passé, elle m'aurait répondu « Pourquoi tu dis ça ?» Et j'aurais conclu par « Il a volé 2 étoiles dans le ciel pour les mettre à la place de tes yeux. » On a toujours bien aimé s'envoyer des messages comme ça, et ces jours-ci, la complicité entre nous revenait. Il y a 40 minutes à peine, j'avais le sourire aux lèvres, limite si je ricanais pas un peu. Alors il a surgi de nulle part. Une gifle a surgi de nulle part. Je me suis mangé une grosse gifle sur le coin de la bouche. Il m'a craché dessus. Une glaire, verte et jaune, sur ma veste Hugo Boss. Sale blanc de merde, il a crié. Juste ça. Et il a repris son chemin. Il n'a pas accéléré, il a continué à marcher normalement, comme s'il ne s'était rien passé. J'ai fouillé mes poches. Mon portefeuille était toujours là, le téléphone aussi. Je ne suis pas retourné au boulot. Accroché à ma salade, à ma sampé, j'avais perdu la pomme. Je suis rentré à la maison, j'ai tiré les rideaux.
Jean-Christophe Folli, quelle place a cette scène dans votre roman ? Pour moi, elle est centrale, hein, mais bon.
Oui, ben je trouve que ça annonce la fissure justement du narrateur qui commence à voir les choses différemment. L'image d'Épinal, un peu de l'enfance, commence à se fissurer et je pense qu'on peut vraiment se parler. D'ailleurs, ça répond un peu à votre question de tout à l'heure, quoi. C'est détruire des images d'Épinal pour pouvoir en finir avec la haine, je pense. Et c'est ce qui se passe avec cette scène.
Et en même temps, c'est très violent, ce qu'on lui dit. Sale blanc.
De merde, en plus, ouais.
J'essaie ouais. d'être poli.
Ouais, c'est vrai que, oui, c'est très violent, mais ça participe aussi de cette violence dont vous parliez plus tôt, dans les transports, ou sur les réseaux, ou tout ce qu'on veut, ça monte, et au bout d'un moment, c'est bien de s'en rendre compte, en lisant un livre.
Et sa compagne, un peu plus tard dans le roman, va lui dire « Il n'y a rien de pire que d'oublier qu'on est blanc. » Parce qu'il l'avait oublié, Geoffroy, qu'il était blanc. Tout en pensant, là c'est moi qui parle, qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Ça n'existe pas, le racisme anti-blanc.
Oui, voilà, c'est ça. Après, oui, je pense que non, il s'en rendait pas compte. Je sais pas s'il l'a oublié. Enfin, je sais même pas s'il s'est posé la question.
Ça lui rappelle, en tout cas.
Oui, ça lui rappelle, il y a une prise de conscience. Ouais.
Et on est au cœur du débat, en fait, qui traverse notre société aujourd'hui, en France et en Europe, sur le postcolonialisme, le racisme, le wokisme, mais aussi sur les assignations sociales ou même les transfuges de classe, puisqu'il y a des similitudes entre les niveaux sociaux et parfois les couleurs de peau.
Bah, ça me fait très plaisir que vous parliez de ça, parce que c'est vraiment tout ce que j'ai mis dans le roman, en fait, c'est ça. Ouais, j'ai voulu justement en parler, et si vous l'avez ressenti, c'est super.
Ce livre est dédié à une universitaire qui travaillait au Canada, qui est décédée en 2021, Afef Benessaye.
Oui.
Elle travaillait à Montréal au Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. En quoi elle a nourri ce livre ?
Déjà, parce que on s'est rencontrés au moment où je commençais à écrire Benoît et que je lui ai demandé si elle pouvait m'accompagner dans l'écriture, et elle a accepté. Donc elle a été très importante dans la première mouture de ce roman, et de part aussi ses recherches et ses études sur la transculturalité, tout ça m'a beaucoup apporté aussi, même pour l'écriture de Salade Tomate Oignon, justement ce qu'on disait tout à l'heure il n'y a pas de double culture, il y en a tellement, de par le fait d'être transfuge de classe, d'avoir connu des gens à tel ou tel endroit, fait que on ne peut plus dire que c'est tout noir ou tout blanc, mais qu'on devient multiple, et elle m'a beaucoup apporté là-dessus. Donc ouais, je lui rends encore hommage. Ouais.
Et le roman est dédié à l'Afrique et à sa diaspora. Toi, tu es qui tu es. C'est cela le message. J'y reviens, je suis un peu obsédé. De la vie, de ses joies, de ses souffrances, il y a quelque chose de cela aussi dans le personnage que vous jouez, Jean-Christophe Folli, actuellement au théâtre, dans Dolorosa de Rebecca Kricheldorf, qui est donc la pièce d'une autrice allemande, qui est une version très contemporaine, très trash, très drôle en même temps des trois sœurs de Tchekhov. C'est une famille dans une maison en ruine, ils sont oisifs, un peu paumés, et puis débarque Georges, donc vous, qui dirige une fabrique d'emballage. Et c'est pas mieux.
Et Olga, j'en peux plus de ma vie. J'ai presque 50 ans et dans l'impasse. J'ai toujours voulu être libre et maintenant je suis directeur d'une fabrique d'emballage. Et quand je pense que ça va durer comme ça pour toujours, année après année, je deviens fou.
Mais ta femme, elle est vraiment malade ou elle fait un peu semblant?
Si quelqu'un est malade ou fait semblant, en ce qui concerne le résultat, ça revient au même. Je sors, elle se suicide, je cours à l'hôpital, finalement elle vit encore, elle pleure, je pleure, elle jure de plus jamais se suicider, je jure de plus jamais sortir, triste comédie à l'infini.
À l'infinitum.
Malheureusement, on peut vivre qu'une seule vie. J'ai lu une histoire une fois sur une fille qui s'appelait Corinne et qui avait le pouvoir de se démultiplier. Il y avait une Corinne qui buvait son café, la deuxième Corinne qui allait danser, la troisième qui voyait son amant, la quatrième Corinne qui faisait le tour du monde. Et je la trouvais extraordinaire, cette histoire. D'ailleurs, la science serait déjà capable de nous cloner, et ça, c'est beau. Mais pourtant, on serait seulement clonés. On sera en quelque sorte jumeaux, et chaque jumeau aurait sa personnalité propre. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux quand même être moi-même, mais plusieurs fois à la fois. Mais ça, c'est pas possible.
Extrait de Dolorosa, et malgré les apparences et la description que vous faites de votre vie, en tout cas que le personnage fait de votre vie, Jean-Christophe Folli, c'est assez drôle quand même cette adaptation des Trois Sœurs de Tchekhov.
Ouais, on se marre bien là, avec toute l'équipe. Ouais, c'est...
Avec ouais. Marie-Sophie Ferdan notamment, qui est une comédienne assez extraordinaire. Ouais. Mais en même temps, le texte touche à l'essentiel.
Oui.
Sur ce que sont nos vies.
Oui, je trouve. Et puis il y a eu un vrai retravail aussi d'écriture aussi de la part de Martial.
Martial Di Fonzobo, qui est le metteur en scène. Oui.
Martial Di Fonzobo, oui. Et donc, oui, de réadaptation, d'insuffler, de remettre du Tchekhov aussi dans l'adaptation. Et je trouve que ça ressort bien. Ça ressort bien. Je trouve que oui, le côté oisif dont vous parliez, en même temps la déchirure, ça fait un peu les malins au début, et puis finalement ça s'étiole, et puis ça se fissure, et c'est ça qui est beau, je trouve, au fur et à mesure du spectacle. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'observe, vu que Georges fait des apparitions, et puis ensuite il s'en va, du coup, je regarde beaucoup mes partenaires, et puis c'est beau de les voir s'éplucher petit à petit, quoi.
Ce qui est tellement triste qu'il faut beaucoup d'humour pour voir le supporter. c'est une des phrases de la pièce.
Ouais, hein. C'est Olga, c'est Marie-Sophie qui le dit. C'est très très beau.
Et en même temps, il faut vivre. Ce sont les derniers mots du spectacle. C'est une découverte pour moi, cette autrice allemande. Est-ce que c'est aussi une découverte pour vous? Et en tant que comédien, est-ce que vous aimez justement aller sur des territoires, dans des littératures, dans des univers que vous ne connaissez pas forcément? C'est toujours la même question. Est-ce que c'est sortir de soi-même que de faire du théâtre, finalement?
Oui, c'est toujours bien d'aller vers l'autre, vers l'altérité. Mais je connaissais pas du tout l'autrice de Dolorosa, et oui, j'aime bien découvrir surtout la langue, moi, qui me plaît. J'aime bien mâcher les mots, et donc oui, aller à la découverte d'une autre langue, j'adore, ça me passionne.
Même si c'est en français, parce qu'on a chacun sa langue, en fait.
Oui, c'est en français. Après, du coup, j'aime bien apprendre d'autres langues. C'est passionnant de découvrir la manière de prononcer de gens qui parlent pas français. Voilà, d'autres langues, l'italien, l'anglais, le grec, et tout ça, toutes les subtilités d'une langue. J'aimerais bien pouvoir jouer dans toutes les langues. J'adorerais.
Donc, c'est pas tout à fait un hasard si vous êtes aussi écrivain. Merci beaucoup Jean-Christophe Folli. Benoît Blouz, donc ce premier roman est publié chez Mémoire d'Encrier, et vous êtes à l'affiche de Dolorosa de Rebecca Kricheldorf au Théâtre du Rond-Point à Paris, dans une mise en scène de Martial Di Fonzobo, et c'est jusqu'au 15 mars, mais ensuite vous partez tournée. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation, et on se retrouve la semaine prochaine.